sang, les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maltenus. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment.
Monsieur,
comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur les Collégariques Montpellier, Canassus de Toulouse et Radio Primitive, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Bonsoir.
Alors, ce soir, on va vous présenter une émission réalisée par l'Écho des Luttes à Paris. Cette émission fait suite à une émission qu'on avait diffusée en juillet 2014, qui relatait la lutte d'ouvrières, surtout, et d'ouvriers, d'une usine Latelec en Tunisie. Alors, Latelec, c'est une filière de la TECOER qui était connue, bien connue, au début dans le 19e siècle, pour avoir fourni, c'était eux qui avaient les hydravions, entre autres, qui faisaient qui ont ouvert les lignes postales avec l'Amérique du Sud, etc. Et donc, ces filles ont créé une boîte, une section syndicale de l'UGTT, l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, un syndicat de base, et elles ont donc juste après la chute de Ben Ali. Donc ça, il faut savoir que de toute façon, en Tunisie, on ne peut créer une section syndicale que si on est soi-même en CDI et qu'il faut avoir au moins 4 ans de boîte pour pouvoir créer cette section syndicale. Voilà. Donc là, elles étaient sur Paris fin décembre. Et donc c'est pour faire une intervention à l'habitation de Sud, et donc c'est cette intervention qu'on va retrouver dans l'émission. Voilà.
On se représente, Sonia Jbeli, secrétaire générale de l'Union, l'UGTT, section à la SO à l'Atelier, syndicat de base de la SO à l'Atelier, et Monia Dridi, secrétaire adjoint de syndicat de base de la SO à l'Atelier, syndicat UGTT. Nous sommes recrutés à la SO à l'Atelier dès 2006. Cette société, elle était délocalisée en Tunis en 1998. Mais le site où on travaille a été créé en 2005. Nous avons vécu au sein de cette société plusieurs abus, tels que l'insulte, l'harcèlement sexuel, la discrimination des classes, le non-respect et surtout envers les employés, du contrat intérim, des heures supplémentaires à la file sans arrêt. Reste qu'on a travaillé dès 2006 jusqu'au fin 2010, des heures supplémentaires sans arrêt. Et ces heures supplémentaires ne seront pas aussi payées selon la loi. Parce que normalement, selon le code de travail tunisien, il ne faut pas qu'on dépasse 20 heures supplémentaires. Mais tant que la SO à l'Atelier dépasse même 40 heures supplémentaires, il ne faut pas qu'elles soient déclarées. Alors, on n'en voit pas la somme des heures supplémentaires, hors plus de 20 heures supplémentaires. La société SOA La Telec aussi, il ne nous accorde que 10 jours de congé, le temps qu'au niveau du code de travail, on a le droit de 15 jours de congé annuel, bien sûr. Bien que le salaire il était trop bas vis-à-vis aux compétences demandées de la société, parce que la société elle exagère un tel niveau scolaire, le bac et le bac plus, elle exagère qu'on maîtrise la langue française, elle exagère un tel niveau d'intelligence, de concentration, parce qu'on passe par des tests d'intelligence, de concentration pour connaître, recruter à la SOA La Telec. Bon, on n'a pas pu réagir, on n'a pas pu demander nos droits parce qu'on n'a pas le droit de faire un syndicat avant d'être titulaire, alors, avant d'être sous contrat à durée indéterminée. Et ça, on ne peut pas l'avoir qu'après 4 ans. 2006, on a pu avoir le titre contrat à durée indéterminée que fin 2010. On a commencé à parler avec les employés, de les convaincre de faire des cartes d'adhésion au niveau de l'UGTT pour qu'on puisse monter notre syndicat. Parce que pour qu'on puisse faire un syndicat, il faut qu'on ait plus de 50 personnes adhérentes à l'UGTT. On a pu convaincre 87 employés. On a monté notre syndicat le 18 mars 2011. On a bien travaillé sur surtout les conditions de travail. On a amélioré l'ambiance de travail. On a créé une ambiance de travail de respect réciproque entre les cadres, les maîtrises, les hiérarchies et les ouvriers. On a aussi arrêté les harcèlements sexuels, les insultes, etc. Puis on a passé pour régler le congé, on a signé des PV dans lesquels on a voir le droit de congé, même on a fait de rappel rétroactif de 3 ans avant. On a aussi passé pour régler les heures supplémentaires et de faire régler les heures supplémentaires, de travailler les heures supplémentaires dans le cadre de la loi. Il ne faut pas dépasser 20 heures. La société elle était obligée de recruter plus de 220 personnes. On a passé à 420 personnes à la société. Ouvriers, je dis bien, il y a 30 cadres maîtrises. On a arrêté les contrats intérimaires. Tous les gens qui étaient sous contrat intérimaire, ils ont eu un contrat à durée indéterminée. Et on a arrêté le contrat totalement au niveau de la société. Il n'y a plus de contrat à durée de contrat intérimaire. Bon, en faisant tout ça, en réglant tout ça, on a passé de 87 adhérents à 420 adhérents sur 450. Bien sûr, on a dit le 30, ce sont les cadres et les maîtrises, ils ne veulent pas être présentés par des simples ouvrières. Bon, après, on a bien pensé de quand même régulariser le salaire parce que en demandant ces compétences, il faut qu'on le valorise bien. On a créé un projet de classification professionnelle. On connaît.
Il faut dire le salaire.
Bon. Oui, le salaire, oui. Le salaire, il était avant la classification 123 euros par mois. Bon, on a créé le projet de classification professionnelle. C'est la valorisation des compétences des employés selon leur tâche et niveau scolaire, les tâches qu'ils exécutent et le secteur où on travaille. Parce qu'on fait l'aéronautique, on ne fait pas électronique, le portable, etc. En comptant tous ces compétences, etc., on a créé le projet qui était lancé, mis sur table de négociation le 14 octobre 2011. Bon, la société, elle était totalement contre la négociation. Ils n'ont pas accepté même de négocier le projet, de dire qu'on n'est pas, qu'on ne demande pas ce niveau et il faut de négocier quoi. Mais on a pu mettre la société sur table de négociation que après un préavis de grève qui a été lancé, juste préavis, on n'a pas réalisé ce grève. On a commencé la négociation en février 2012. Bon, la négociation, c'est vrai qu'elle a commencé parce que la société elle était engagée au niveau de l'inspection de travail au niveau du gouvernement tunisien qu'elle va négocier la classification. mais au niveau de négociation, on n'a pas vu une négociation officielle et professionnelle. Ils ont essayé de nous acheter comme syndicat, nous proposant des postes, des nouveaux postes supérieurs, en proposant des comptes bancaires, en proposant des salaires très élevés pour le syndicat. Bien sûr, on a arrêté ça. On a dit, on veut, c'est vrai, un salaire, ce salaire selon la classification, mais ce n'est pas pour les délégués syndicaux, c'est pour les 420 personnes qui sont adhérents à notre syndicat, et on demande le droit des ouvriers. Bon, ils ont passé par un autre format de négociation, c'était le menace. Et surtout, le menace de licenciement, on entend ça presque chaque réunion, on entend le mot « vous allez être licencié ». Qu'est-ce que vous allez gagner si vous allez signer ce PV et vous partir? On a dit « bon, on assume notre responsabilité, on était élus pour représenter les ouvriers et on est là et on ne va pas lâcher jusqu'au bout. » Même on a entendu un jour le menace de mort, mais on n'a pas lâché, on était jusqu'au bout et on a terminé le projet. Le 21 mai 2012, on a pu signer enfin le projet de classification qui a accordé plus de 30% d'augmentation pour tous les salariés de la société. Alors là, la société, ils ont commencé la répression. Ils n'ont pas accepté d'augmenter les salaires tout d'un coup. On a passé presque à 550, 570 dinars, bien sûr. Alors, 2,47 euros. Presque. Ça, elle a gêné la direction et pour faire la répression, ils ont au premier lieu changé le directeur de site. Ils ont recruté un nouveau directeur site. Au niveau de la réunion de représentation, on se représente comme syndicat, il se représente comme directeur ou avec lui quand on va négocier. Il nous a dit qu'il est spécialement ici à Tinus, à Fushana, pour faire la limite au syndicat Tutu. Et lorsqu'on a posé la question, qu'est-ce que ça veut dire, syndicat Tutu, on veut savoir pourquoi tu as dit ça, jamais que nous avons rencontré. Elle a dit, si j'étais là, jamais que vous allez signer le projet de classification. On a dit, bon, c'est notre droit. Et si la direction, elle n'était pas convaincue que c'est le droit des ouvriers, jamais qu'ils vont accepter ça. Bon, elle était appliquée juillet-août. Elle était appliquée au mois de juillet-août. Le septembre 2012, 17 septembre, bien précisément le 2012, la société a créé une nouvelle syndicat maison. Les adhérents sont les 30 personnes de cadre et de maîtrise. CGTT, cette syndicat, c'est CGTT, Confédération Générale des Travailleurs Tunisiens. Bon, et la société, pour qu'elle aide cette syndicat et pour faire forcir cette syndicat, quoi, et le rendre fort, ils ont fait un prime de challenge pour les ouvriers. À toute personne qui sera adhérent au niveau de la CGTT, il aura une augmentation de 73 à 103 dinars. Heureusement, les employés, ils ont été très attachés par le syndicat CGTT. Ils ont dit, si on a le droit de 73 dinars ou bien de 103 dinars, Sonia et Monia, ils ne vont pas lâcher ça et ils vont nous accorder cette augmentation sur table, c'est pas sous table. Mais malheureusement, on trouvera des gens qui ne sont pas plus forts. C'est des gens qui. On y en a 5 personnes qui sont partir pour aller adhérer à l'autre syndicat. Parmi ces cinq personnes, il y a 3 hommes qui ont dit bon, on ne veut pas qu'on soit guidé par des femmes. On n'accepte pas. Bon, après, le 19 septembre, on était invité chez le directeur dans son bureau. On a trouvé dans la salle la nouvelle syndicat, les cadres et les maîtrises de la société. Il nous a dit bien clairement, l'avocat de la société, il nous a dit bien clairement, je vous représente ce syndicat et dès aujourd'hui, c'est elle qu'elle va négocier avec nous. Elle est plus cultivée et elle va vous remplacer. On a dit, bon, bienvenue à cette syndicat, mais monsieur, vous savez bien que nous sommes majoritaires. Nous avons 420 personnes adhérentes sur 450 salariés. Alors, c'est à nous de négocier, c'est pas quelqu'un d'autre. Et si cette syndicat un jour aura la majoritaire des employés, bienvenue, c'est à elle, c'est son droit, elle va négocier. Il nous a dit, bien sûr, j'étais sûr que vous n'allez pas rendre ça et vous n'allez pas m'écouter. Alors, on va exécuter ou réaliser ce qu'on a parlé au mois de mai.
C'est la dernière chance.
C'est la dernière chance. On vous a donné une chance, mais vous êtes têtu comme d'habitude. On a dit, bon, clarifiez-nous, on veut savoir qu'est-ce que ça veut dire ça et... quelle est votre parole bien précise. Elle a dit vous n'allez pas rester à la société si vous n'acceptez pas d'effacer. On a dit, on ne va pas s'effacer. Et comme on a dit, dans le temps, on est jusqu'au bout représentant des ouvriers, on va être représentant des ouvriers, on n'efface pas. Le 21 septembre 2012, on a trouvé la société fermée. Il y a une affiche dans laquelle suite aux graves incidences de cette semaine, insultes et séquestrations de la part de syndicats UGTT, on a décidé
envers
la direction, on a décidé de fermer l'usine jusqu'à un nouvel ordre. Sonia et Mounia, ils ont séquestré la direction. Bon. Bien sûr, si une société va fermer, l'inspection générale va l'inspection, elle va inviter aussi le GPT et le syndicat de base pour voir pourquoi et de qu'est-ce qu'il s'agit cette fermeture. On était invité le 23 septembre 2012. Bon, la société, elle a dit et elle a réclamé, même ils ont noté sur le PV qu'ils sont prêts pour réouvrir la société et de reprendre le travail à condition le licenciement de syndicat de base. Bien sûr, on a refusé, on a dit qu'on est attaché pour notre droit de travail, on ne va pas accepter ça. Heureusement aussi les employés, et bon merci aux employés qui nous ont laissé pour nous garder. Le 420 adhérents, ils ont dit aussi, nous sommes prêts à entrer travailler à chaque moment, à chaque minute, mais à condition qu'on ait les délégués syndicaux avec nous. Et ça, il a resté presque un mois, du 21 septembre jusqu'au 18 octobre 2012, les employés, chaque jour, ils arrivent devant la société, ils disent que nous sommes prêts d'entrer travailler, mais à condition qu'on voit nos camarades et nos collègues avec nous. Bon, la production, elle était arrêtée un mois. L'Airbus, il était gêné, il faut qu'il avoir son production, etc. Il a fait la pression à la TECOER, la société mère. Et même, il y a un représentant d'Airbus qui a rendu visite à Tunis et qui était présent au niveau de la réunion du 18 octobre 2012. Et la direction de la TECOER était obligée de signer un PV dans lequel l'ouverture de la société et de faire entrer tous les employés, y compris le syndicat. Mais jamais qu'ils ont oublié qu'ils vont licencier le syndicat.
Cette rencontre du 20 décembre 2014 avec Sonia Jebali et Monia Dridji qui sont militantes ouvrières tunisiennes de la société Latelec Latécoer en Tunisie.
On a entré le 18 octobre 2012, on a trouvé la société vide, zéro production. Chaque jour on pose la question, où est la production? Qu'est-ce qu'on fait ici? On croise le bras de 8h jusqu'aux 16h et on partira chez nous. En avoir le salaire, c'est bizarre, quelque chose de bizarre. Bon, il nous a répondu, c'était pas oralement, c'était avec des papiers distribués à la main de tous les ouvriers de la société dans laquelle ils ont noté que la production est temporairement à Tarbes, à Montpellier, jusqu'au qu'on a voir licencié le syndicat UGTT. Il fait qu'est-ce qu'il veut, malheureusement, atténiste. Il dit ça et il est libre parce que le code de travail tunisien, il autorise ça. Suite à cette déclaration qu'il n'a pas de production, au niveau de la société, il fait ça, mais au niveau de l'inspection, il dit que je suis à zéro production, le fournisseur ne veut pas me donner de production, de matières premières, etc. Et là, et suite à ça, il a arrêté le 220 personnes contractuelles, malheureusement. Puis, il a obligé une centaine de personnes à aller travailler à Sharjah. Il a fait l'invitation de 100 personnes d'aller travailler à Sharjah, l'autre site qui a été créé en 1998. Et ça, cette invitation, elle était illégale parce que suite à la convention collective électronique, l'invitation, il faut qu'elle soit volontaire ou avec l'accord de l'employé. Mais il a choisi une centaine qui le sent qu'ils sont forts et ils peuvent lutter encore. Le reste, il a pris 7 ouvrières à contrat à durée indéterminée. Ils ont passé par un conseil de discipline illégal et avec un motif de n'importe quoi. Il a dit qu'ils ont refusé de travailler. Mais tu as dit que tu es à zéro production. Tu as lancé et tu as dit au niveau de l'inspection que tu as zéro production. Quel refus de travail? Quel travail qu'ils ont refusé? Elle a dit que je suis le seul du sud ici. J'ai dit aujourd'hui, je n'ai pas de travail. Le même jour, je dis qu'ils ont refusé de travailler et aucun qu'ils peuvent me faire quelque chose. Ils ont refusé le travail et ils ont fait arrêter. Et effectivement, ils ont licencié les 7 filles. Puis, il nous a appelé disant, voilà, aujourd'hui, le terrain est vide. Les employés qu'ils ont lutté pour vous garder au mois de septembre et octobre 2012, ils sont ailleurs. La production pour faire pression s'est attardée à Montpellier. Vous allez être licenciés. Et effectivement, le 15 avril 2013, on était arrêtés à la porte avec une déclaration qu'on va être passé par un conseil de discipline le 19 avril 2013. On a passé par le conseil de discipline dans l'accusation empêchement de 420 personnes d'entrer travailler au mois septembre-octobre. On a empêché 420 personnes. Aussi, diffamation de l'image de marque. Parce que lorsqu'il a licencié les filles, on n'a pas de production, on a choisi de se manifester devant l'ambassade de la France. Lors du Forum mondial social, le 30 mars, on a contacté des militants tunisiens, français, etc., de différentes nationalités, et on a pu convaincre des gens de se manifester devant l'ambassade. On a fait une manifestation et suite à ça, on était licenciés parce qu'il a dit qu'on a fait la diffamation de l'image de marque de la société. Il licencie les filles, il fait des habits, il ne respecte pas la loi et on n'a pas le droit même de se manifester dans la rue. Après qu'on était licenciés, on a recontacté nos camarades et qu'on a contacté au niveau du Forum mondial et ils ont monté un comité de soutien à Paris. C'est le comité de soutien aux syndicalistes de la SOA La Telec Fouchena qui comporte plusieurs partis, plusieurs associations militantes, de syndicats, etc. Et aussi, il y a notre comité de soutien au niveau de Toulouse, comité de soutien aux luttes de peuple tunisien. Presque, c'est composé du même, militants, etc., au niveau de la première comité de soutien. Ils ont bien travaillé, ils ont bien organisé plusieurs trucs, des tracts, etc. Même, ils ont organisé une tournée pour nous, les deux délégués syndicaux licenciés. On a fait une tournée en septembre-octobre 2013 ici en France. On a pu élargir à partir de cette tournée, élargir la solidarité, élargir même les comités de soutien. On a pu contacter surtout les syndicalistes au niveau de la société mère, la TECOER à Toulouse, aussi les syndicalistes d'Airbus, le fournisseur, le client, et aussi les syndicalistes de Dassault, parce que la société, elle travaille pour Dassault et pour Airbus. Après cette tournée, on a organisé ensemble même des actions au niveau de ici en France et à Tunis. On a fait des cartes postales ensemble en verre volant, dans laquelle on a noté que les employés tunisiens ne sont pas des esclaves, parce que la direction de la TELEC, même, il nous a appelés des esclaves. Il a arrivé un jour disant, voilà comment on paie les esclaves, en jetant une fiche de paie sur nous, sur nos visages, disant que voilà comment on paie les esclaves, à la présence des gouvernements tunisiens, de leurs représentants IGTT, etc. Et on a demandé notre droit de réintégration tant qu'il est responsable comme représentant de l'État français, qui est actionnaire au niveau de l'Airbus de 66,9%. Mais bien sûr, elle n'a pas réagi aux ventes. Elle n'a pas l'intérêt de réintégrer les gens. Il se représente comme défendeur de droits de l'homme, de droits de femmes, de droits de travailleurs, mais la vérité... c'est une autre tout à fait différente. Ce sont comme que des films et c'est une stratégie, quoi. Bon, après, on a fait des grèves au niveau de la société. Le 12 février, on a pu faire un grève à Tunis, un débrayage au niveau de la société mère Toulouse, au niveau de la société mère Washington et au niveau de la société mère Brésil. Et ça a bien gêné la direction. Et bien aussi gêné la direction de l'UGTT qui n'a pas réagi. On était presque, on a lutté dans notre lutte, nous comme syndicat de base UGTT, et en accordant avec les militants tunisiens, militants français, etc., mais à l'absence totale de l'UGTT, de la direction de l'UGTT. Bon, lorsqu'il a vu que les syndicalistes dans le monde, ils ont réagi, il faut quand même qu'ils réagissent. Il nous a appelé, qu'est-ce qu'on peut faire avec vous pour, c'est trop tard, mais aussi trop tard que jamais, quoi. Bon, on a demandé un préavis de grève générale régionale. Bon, il a dit, c'est trop ça. On va faire un préavis de grève régionale générale locale. On a dit, ok, c'est mieux. Que jamais. On fait ça, c'est on commence. On a fait cette préavis qui était prévue pour le 5 mars 2014. Malheureusement, on était au cours de préparer ce grève. On a fait des affiches, on tourne dans toute la zone où on travaille. On a fait les affiches en parlant avec les ouvriers dans tous les usines. Mais le GTT, il est... il a même lancé au niveau de patronat qu'il ne va pas réaliser ses grèves. C'est que n'importe quoi, formellement, un PV, formellement, un préavis formellement. Il y aura, il était une réunion le 4 mars 2014. Dans cette réunion, on n'était pas présent. La direction de l'UGTT régionale a refusé qu'on être présent lors de cette réunion. Ils ont accord avec la société de faire réintégrer 5 ouvrières, et il y a un délégué syndical qui était la troisième. Elle était formellement indiquée sur le PV, et lorsqu'elle a posé la question le lendemain, elle a dit non, désolé, tu n'es pas réintégré, c'est formellement indiqué sur le PV, parce qu'au niveau de la préavis de grève, on a noté comme direction de l'UGTT que l'attaque, la société SOA Latelec a bien attaqué le droit syndical. Je ne veux pas annuler la préavis de grève sans réintégrer un délégué syndical. Il a dit, je ne suis pas réintégré. Il a dit, j'ai dit formellement. Lorsque les gens ils vont voir le PV, ils vont dire, voilà, l'UGTT elle a réussi quand même de réintégrer un délégué syndical. Bon, cette fille, elle a choisir de partir. Elle a dit, bon, j'en ai marre de ce qui est fait au niveau de l'UGTT régionale, de la direction de l'UGTT régionale et générale, nationale. Elle a choisi de partir, de prendre les indemnités qui sont négociées avec l'UGTT et la direction, et elle a parti. Bon, on a resté moi, Sonia, et deux ouvrières. On a essayé de toute façon d'avoir une autre préavis de grève au sein de la société pour demander notre réintégration. On a essayé dès le mois de mars jusqu'au mois de juin sans réussite. Chaque jour, presque, on allait chercher la préavis. Enfin, ils ont dit, on ne va pas vous donner une préavis de grève. Nous sommes responsables d'une région et le dossier s'est fermé. Quelle est la relation d'être responsable d'une région et d'un préavis de grève au sein de la SOA, je ne sais pas. Bon, on était obligés, le 19 juin 2014, d'entrer dans un grève de la faim. Bon, c'était mené par Sonia Jbeli, la secrétaire générale du syndicat EGTT, et Houdaï Felji, une ouvrière. Bon, je laisse la parole à Sonia. Elle sent bien qu'est-ce que ça veut dire, grève de la faim, et elle va vous expliquer mieux.
Je vais essayer de parler la langue française parce que je ne suis pas forte comme Mounia, mais
je suis forte.
Bon, comme elle a bien expliqué Mounia Meno, on a trouvé toutes les portes fermées. Parce que peut-être il y a des choses qu'il faut clarifier plus. Même au niveau de l'inspection travail, elle a déclaré c'est pas déclaré, mais elle a dit pour au moins mieux de licencier ou bien sacrifier par 10 filles et garder l'Airbus ici. C'est important que la place de l'Airbus en Tunisie. On a aussi le ministre d'Affaires sociales. On a parlé même avec le ministre et tous, ils ont dit pour nous, c'est pas la fin du monde. Tous les syndicats ils ont le même destin, ils acceptent les indemnités. Pourquoi vous avez refusé les indemnités? Donc, pour moi, je ne veux pas faire plus parce que la présence de l'Airbus, cette société, c'est très important pour Tunisie. Bien sûr, la direction de l'EGTT, et ça c'est le point d'interrogation, elle a dit le même parole, pour nous c'est pas la fin du monde, il y a des syndicalistes, des hommes, c'est pas des femmes comme vous. Dès la première négociation, dès la première réunion, ils ont signé les indemnités, ils ont parti. Donc, et vous, normalement, vous acceptez ça, vous avez bien fait pour les travailleurs, merci, mais voilà, c'est pas vous les premiers, et c'est pas même les derniers. Donc voilà, c'est la parole de l'UGT. On a essayé même de contacter la direction nationale. On était refusé dès la porte. Donc même les partis politiques, on n'était pas bien soutenu par les partis politiques. Par le Front Populaire et POCT. Et les organismes tous, ils ont peur de perdre la bonne relation avec l'UGTT. Tous, ils refusent de nous soutenir. On est vraiment tout seul qu'avec les camarades et les comités de soutien à Paris et Toulouse. Mais vous savez très bien que le comité de soutien à Paris et Toulouse, ils ne peuvent pas faire plus que des tracts ou bien au niveau de médias ou peut-être le média qui a bien fait la pression, surtout au niveau de l'UGTT, parce que chaque fois il dit voilà où est l'UGTT. Donc il pose ces questions et alors là la direction elle était bien gênée. Mais malheureusement, il faut faire quelque chose de plus en Tunisie pour faire la pression à la direction, à l'UGTT, à l'État tunisien. On n'a pas trouvé que la solution de grève de la faim. Bon, on a choisi entre nos droits ou bien la mort. Parce que c'est pas facile, surtout notre pays aujourd'hui, il ne fait pas vraiment beaucoup d'efforts pour arrêter les grèves de la faim. Il était totalement fautiste. Toutes les concentrations sur les choses politiques et tout ça, mais comme on dit, les sujets sociaux, n'ont pas vraiment beaucoup d'intérêt. On a décidé de faire le grève de la faim. C'est comme elle a dit, on est le 19 juin. Donc, bien sûr, il faut que l'une des syndicats entre au grève de la faim. Choisissez d'être dans ce grève de la faim avec une fille parmi les filles licenciées, c'est Houdaï Felji. Et voilà, on était au grève de la faim. 10 jours de grève de la faim, les deux comités de soutien. Travail, des tracts, des manifs et tout. Ici aussi, il y a une troisième comité de soutien créé en Tunisie par différents militants. Le GET, c'est
les étudiants.
Oui, les étudiants. Et par l'UDC, les doublements chemins. Et par aussi, bien sûr, le Front Populaire, surtout POCT. Il n'y a pas vraiment beaucoup, beaucoup des organismes qui nous soutiennent. Mais pendant les grèves de la faim, oui, il y a aussi des militants indépendants. Pendant les grèves de la faim, ils ont bien travaillé. Mais on n'a pas trouvé du JTT ou bien la direction, parce que c'est nous, du JTT. C'est le syndicat de base du JTT, mais la direction, 10 jours, même, ils n'ont pas réagi, même avec un coup de téléphone.
Donc le syndicat auquel vous êtes affilié ne s'est pas mobilisé pour vous aider.
Ah oui. Bon, le 10e jour de grève de la faim, les camarades ils ont organisé une manifestation devant le JTT central. Et dans cette manif, la direction elle était bien taquée, même ils ont dit « dégage » pour le premier secrétaire général. Alors là, il y a des médias, il y a tout. Il faut que la direction de l'UGTT fasse quelque chose pour protéger leur image quand même, parce que ça se voit aujourd'hui comme le premier organisme qui dirige la Tunisie. Donc, il ne faut pas avoir des syndicats de base qui disent, voilà, se révoltent contre eux. Exactement. Ils ont arrivé pour nous dire, bon, on a plein de choses à faire, mais jamais qu'on a oublié que vous êtes vraiment des vrais militants, des vrais syndicalistes. Et ben, on est là pour discuter ensemble après 10 jours. Alors là, c'est leur rôle. Il faut qu'ils le fassent. Et avec beaucoup de pression de l'autorité comité de soutien sur la direction, on est arrivé après 27 jours de grève de la faim de signer un accord dans lequel réintégration de les autres filles licenciées. Bon, après un an et demi réintégration, c'est pas facile parce que le code de travail elle a bien marqué que au bout d'un an la relation professionnelle s'arrête. Donc après un an et demi, réintégration avec même catégorie, avec même échelon, ancienneté, et même il y a un rappel au niveau des augmentations pendant
leur absence.
Donc c'est une chose très importante, mais malheureusement, nous les syndicalistes, on n'a pas arrivé à avoir nos droits de la réintégration. Premièrement parce que l'UGTT il est pendant un an et demi presque absent. Et deuxièmement, parce que ma santé elle était très bien dégradée pendant le grève de la faim et je ne peux pas résister plus. J'ai un maladie du système et je prends des médicaments, de corticoïdes, d'antibiotiques et je ne mange rien. Donc même le docteur qui a suivi le grève de la faim a déclaré qu'il n'est pas responsable parce que dans bon une semaine, je peux mourir. Alors là, Moniel a décidé de négocier les indemnités. Bon, les indemnités, elles étaient élevées par rapport à la loi parce que notre code de travail, elle ne peut pas accorder plus que 16 salaires. Bon, c'est le top, c'est 16 salaires, voilà, sur 8 ans de travail. Bon, on est arrivé à avoir 84 salaires. Donc, parce qu'on a 2 crédits bancaires et aussi un an et demi de chômage, et bien, quand même, bon, pour moi, je ne veux pas dire une victoire parce qu'on n'a pas arrivé à la réintégration. Mais si on parle de conditions de notre pays, de tous les portes fermées, de tous les obstacles, même de la part de notre famille, nous n'ont pas bien accepté notre lutte parce que vous savez très bien notre religion, tradition et tout. C'est pas facile que la famille accepte une fille manifeste dans la rue ou bien passe la nuit hors la maison. Vraiment, c'est une lutte, c'est contre quatre faces, l'État, la loi, la direction de l'UGTT, la famille et tout. Elle était vraiment très dure. Mais voilà, après un an et demi, le minimum possible, on a réintégré toutes les filles avec leur ancienneté. On a augmenté même la valeur de les indemnités parce que vraiment un syndicaliste il se bat toute sa vie pour donner plus aux ouvriers et après il signe quelques millimes et le départ ça vraiment il fait mal et voilà bon c'est notre expérience mais pour moi le victoire c'est pas au niveau des indemnités ou bien la réintégration mais le victoire qu'on a arrivé à faire une solidarité pour la première fois internationale.
Ça, c'est le voctoire. Donc, on a montré à la direction de l'EGTT qu'il y a des syndicalistes qui peuvent faire, mais sans nous. On a montré à notre État, voilà qu'est-ce qu'on peut donner à un syndicaliste ou bien un ouvrier qui va partir. Et voilà qu'est-ce qu'on peut faire. On peut réintégrer les gens et garder la société en même temps. Donc voilà le victoire, surtout la relation internationale, parce que vraiment, avec les camarades, avec la pression au niveau des médias, avec la solidarité, parce qu'un jour, je me rappelle très bien, il y a un greffe, bon, et une manif devant notre usine le 11 janvier, en même temps à
le 12 février,
en même temps à Toulouse devant la TCOR, en même temps à Washington, en même temps au Brésil, le même voilà, cinq usines, les filiales de la TCOR. Et bien vraiment pour nous c'est voilà le victoire, et j'espère bien qu'on puisse faire quelque chose, qu'on fasse plus pour les autres ouvriers, pour les ouvriers du monde, c'est pas que tunisiens, français, tunisiens et tout. On termine cette lutte pour qu'on puisse changer un peu notre code de travail, aussi les lois internes de l'UGTT. Voilà, règlement. C'est vrai que notre destin aujourd'hui, fait un peu mal, parce que on peut pas trouver un travail aujourd'hui en Tunisie. C'est difficile de trouver un boulot en Tunisie. On est bien connu par les patrons. On est bien refusé par les patrons. Voilà, c'est la lutte. On peut pas gagner 100%, mais quand même, on a donné quelques leçons et j'espère qu'on peut améliorer ça. Surtout aujourd'hui, on a remarqué que les syndicalistes licenciés en Tunisie, il y a beaucoup de syndicalistes qui ont refusé d'avoir les indemnités. Ils nous appellent chaque jour pour nous dire, dites-nous comment on peut résister et demander la réintégration. Et ben voilà, on a réussi, c'est le victoire.
Cette rencontre du 20 décembre 2014 avec Sonia Gebali et Monia Dridi, qui sont militantes ouvrières tunisiennes de la société Latelec Latécoer en Tunisie.
Est-ce que votre affaire est passée devant le tribunal là-bas?
Non, on ne peut pas, parce que le tribunal ne donne pas le droit de la réintégration. Il compte que les indemnités de départ, ah, pas d'accord. Plus.
Et après 5 ans, 600.
Après 5 ans, voilà, 600 de négociation.
Donc, au nom de la FTCR et de la DTF, deux associations militantes, disons, contre les discriminations, donc là, dans tous les domaines, je nous vous remercions vraiment, à vous toutes les deux, Sonia et Monia, de ce témoignage et de cette lutte. Donc, mon ami Tarak Toukabri, qui est président de la DTF, et Raouda, je crois que tu présentes la FTCR, donc nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir. Ce qui me gêne vraiment beaucoup dans votre histoire, c'est qu'effectivement les syndicalistes ici, à part le fait de faire des luttes, tout ça, est-ce qu'effectivement il y a eu une intervention d'un organisme quelconque, genre le BIT, signalisation, Bureau international du travail, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a eu ce genre d'intervention?
Au niveau de notre tournée,
oui,
ici,
oui, européen, oui.
Le comité de soutien, ils ont organisé des contacts, des rencontres avec plusieurs points de gouvernement français, tels que l'Assemblée nationale. On a rencontré le ministre des droits de femmes, on a rencontré aussi plusieurs. On a rencontré plusieurs, même. De droits de l'homme, on a rencontré les...
Pour répondre à la question, par rapport au BIT, etc., rien du tout.
Quoi. Oui, rien du tout, oui.
Après notre retournée en France, la production était...
repartie en Tunisie. Et en plus, lorsque effectivement il y a un licenciement comme le vôtre, ici, les tribunaux ordonnent automatiquement la réintégration. Et si le salarié ne veut pas, c'est une obligation hein, de faire par le tribunal. Le juge n'a pas le pouvoir d'apprécier. Il est obligé de faire ça. Et donc, lorsqu'il y a réintégration, si le salarié refuse parce qu'il dit, bon voilà, les pots sont cassés et tout ça, donc il y a obligatoirement donc, une indemnisation qui est quand même conséquente. Donc là, le salarié reçoit, disons, une indemnité égale jusqu'à la fin de sa période de protection. Et la période de protection, c'est son mandat. Mm-hmm. Par exemple, vous êtes élu pour maintenant 3 ans. Ouais. 3 ans plus 6 mois après, de salaire minimum plus un petit quelque chose. Voilà, non, il n'y a pas ça.
Deux mots, c'est-à-dire que d'une part, bon, c'est pas un secteur qui est en déclin où il y a des problèmes de débouchés.
Voilà.
C'est l'aéronautique, c'est un secteur porteur, et c'est des donneurs d'ordre qui sont Airbus et Dassault qui sous-traitent la production d'équipements électroniques et électriques. Bon, donc il y a des débouchés. Le problème, donc il n'y a pas de problème économique. Bon.
Ouais.
La deuxième chose, c'est ce qu'a fait la direction de la TECOR, enfin de la TELEC, mais de fait la TECOR, puisque c'est une filiale, c'est ce qu'on appelle un lock-out. C'est-à-dire qu'ils ont fermé la production, ils ont relocalisé ou déplacé la production. Alors ils ont parlé à un moment du Mexique, pourquoi pas sur la planète Mars, et après ils ont dit on rapatrie en France les travaux. Dans le but, non pas de fermer l'entreprise, mais de supprimer le syndicat UGTT. Et dès qu'ils ont réussi à faire ça, ils ont ramené la production en Tunisie pour la simple raison, c'est qu'elles sont payées, je ne sais pas combien, je crois 300 euros, quelque chose comme ça. Et les salaires en France, même s'ils sont faibles, ils sont quand même nettement plus élevés. Voilà. Donc c'est vraiment une entreprise antisyndicale de détruire le syndicat. Voilà.
Oui, parce que maintenant, après qu'on a réintégré les filles, et on a parti comme syndicat, même dans le temps, on travaille que la 320, l'F7X pour Dassault. Maintenant, on travaille la 320, la 350, la 380.
Tout le câblage.
Alors, il n'y a pas un problème économique. Et notre licenciement, même l'inspecteur général, il a dit que c'est abusif, mais malheureusement, selon le code de travail tunisien, son avis, c'est formel. Quoi. Il peut être respecté comme il peut paraître.
Moi, j'aurais voulu savoir, puisque vous avez parlé de la direction du GTT, en vous entendant, je me dis, comment se fait-il que vous n'ayez pas créé votre propre syndicat, puisque visiblement la direction de l'UGTT vous met les bâtons dans les roues, mais vous décidez quand même d'être à l'UGTT. Alors, en vous écoutant, je me disais, pourquoi vous n'avez pas créé votre propre syndicat ?
Non, en Tunisie, on ne peut pas être un syndicat indépendant. Il faut qu'on soit affilié à une organisation syndicale.
D'accord.
On a l'UGTT, qui c'était la première syndicat en Tunisie. On a deux autres syndicats, ce sont créés après la révolution. Pour moi, je choisis bien l'UGTT, parce que l'historique de l'UGTT me plaît beaucoup, mais indépendamment de me plaire, il y a plusieurs militants qui ont bien travaillé à l'UGTT. C'est pas qu'aujourd'hui, il y a la direction de l'UGTT me dirige bien, ne travaille pas à l'intérêt des ouvriers alors que je le quitte. Non, j'essaie de régulariser et de changer peut-être, comme elle a dit Sonia, les règlements internes, parce que les règlements internes sont purs, ils ne sont pas démocratie, quoi, parce que comme syndicat de base, on ne peut pas lancer un préavis de grève, comme ici en France, les syndicats de base, ils peuvent eux-mêmes lancer un préavis de grève. Nous, on ne peut pas lancer un préavis de grève qu'à l'accord de secrétaire général, ce n'est pas que même un représentant, que le secrétaire général de l'Union régionale. Il faut changer les règlements, il faut changer le code de travail, il faut changer, c'est pas de créer des autres syndicats, c'est pour moi, c'est on divise encore la classe ouvrière. Il faut qu'on soit tous unis pour qu'on puisse faire quelque chose. Et on a vécu ça lors de notre expérience. On était solidaires avec nos camarades ici en France, en Tunisie, etc. Et on a pu faire quelque chose.
Bah, merci beaucoup d'abord d'être venu nous présenter votre lutte et d'avoir autant fait et tout ça. Je voudrais savoir du coup si l'UGTT vous a pas du tout soutenu, on a bien compris, je le savais depuis un petit moment parce que bon, je me suis quand même assez informée. Et je voudrais savoir si vous avez été soutenu par des associations tunisiennes sur place, des associations féministes par exemple ou pas du tout.
associations féministes, on n'a pas beaucoup en Tunisie, presque deux. Bon, parmi l'association la plus connue, c'est la TFD, les femmes démocrates tunisiennes. Comme j'ai dit dès le début, les associations ont peur de perdre les bonnes relations avec les juges. Donc, cette association, on a dirigé envers cette association dès notre licenciement. Dès le début, ils ont parlé honnêtement. Si le juge est prête de lutter avec vous, je suis totalement avec vous. Mais si le juge refuse, il voit d'autres choses. Donc, désolé, je ne peux rien faire. Mais pendant le grève de la faim, on a trouvé que la TFD était présente tout le jour, tout le temps, comme aussi la direction de l'EGTT, parce que elle va être un jour questionnée, voilà, où es-tu comme une association de femmes, il y a 4 femmes en train de mourir. Donc, pour moi, ils ont arrivé pour protéger leur image de cet organisme. Parce que si ils ont vraiment convaincu que de la lutte de la femme, normalement, il ne faut pas prendre la vie de l'EGTT, non, et ils s'en foutent et faire leur chemin, ils travaillent correctement. Et bon, voilà.
Malheureusement, même Sonia peut-être voilà. T'as oublié, même la TFD, ils ont essayé un jour de convaincre les filles de ne pas suivre Sonia Imonia, les filles licenciées, de ne pas suivre Sonia Imonia, disant que Sonia Imonia, ils ne négocient pas bien avec la direction, ils sont fortes toujours et je ne sais pas quoi. Ils ont essayé pas mal de fois, mais heureusement, lorsqu'ils n'ont pas réussi à diviser les ouvrières et le syndicat, ils ont essayé avec nous, disons, ils nous ont invités comme formation pour nous convaincre de faire accepter les indemnités. Et lorsqu'on a dit non, on ne veut pas, ils ont dit bien clairement, vous êtes tutés et jamais que vous allez avoir la réintégration ni de vous comme syndicat, ni de vos camarades. Et jamais que vous allez avoir plus que ça indemnité et vous allez perdre.
Au niveau des associations qui ont soutenu, il y a bon, l'UGET, donc, qui est le syndicat étudiant, il y a l'Union des diplômés chômeurs, qui est l'association des diplômés chômeurs, et il y a aussi un organisme qui est le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, qui a été sans doute le plus grand soutien. Bon, ça serait bien que vous en parliez un peu.
Le Forum mondial social, c'est Abdelrahman Lili. On a contacté aussi Abdelrahman. Mais Abdelrahman, il est vraiment, pour moi, il est plus honnête parce qu'il est arrivé pendant le grève de la faim. Il a dit, voilà, c'est ma faute. Parce que si j'ai bien travaillé avec vous dès le début, peut-être on n'arrive pas au grève de la faim, mais malheureusement j'ai beaucoup de boulot, j'ai lâché cette lutte et voilà, c'est ma faute. Mais quand même, il est arrivé le dernier pas, bon, comme la TFD et tout. Le GET, elle existe dès le début, le lycée dès le début, aussi le POCT, il existe, mais la TFD, Abdelrahman, bon, Abdelrahman, vraiment, il a dit la vérité, c'est pas comme la TFD aujourd'hui. Elle parle comme elle a soutenu notre lutte dès le début. Voilà.
Et le GET, pardon, excusez-moi, le GET, ils ont bien soutenu, comme elle a dit Sonia, mais même il arrive un jour, le GET était au niveau de grève de la faim, la direction nationale de l'UGTT, ils ont fait pression pour le secrétaire général de l'UGT, Wael Nawa, pour faire sortir les filles de la TELEC, de local de l'UGT, mais il a refusé et il a résisté pour lutter avec nous. Et je dis bien merci à Wael Nawa qui l'a bien résisté avec nous.
Déjà, pour bravo, vraiment, ça fait chaud au cœur de voir en ce temps-ci qu'il y a donc corps de militantes, ça me rappelle, je lui ai dit, c'est la lutte des femmes, du SA, qui a engendré le 1er mai tout ce qui s'est passé à travers ce genre d'exploitation. Maintenant, sans aller, j'ai deux questions. Est-ce que la motivation au début, est-ce que c'est une motivation contre l'injustice, c'est un coup de gueule qu'il faut réagir, ou bien est-ce qu'il y a une conscientisation politique qui a été à travers votre expérience antérieure? Donc qu'est-ce qui pousse deux jeunes femmes de faire plier ces agro-multinationales mondiales intouchables par ce temps-ci avec cette mondialisation, parce qu'elles sont capables de tout faire? Et ma deuxième question aussi, qui est à la suite de celle-là, quels sont vos projets? Est-ce que vous allez continuer à soutenir la lutte des femmes en Tunisie ou la lutte des hommes, etc., dans les syndicats? Et le peu que vous arrivez à faire de nettoyer, où il faut dégraisser le mammouth qui est l'UGTT, est-ce que vous allez continuer à le faire? Est-ce que vous
vous allez aussi s'atteler à remettre un peu de l'ordre dans la politique tunisienne qui est à plat actuellement. Donc voilà, ces deux questions, c'est la motivation initiale, qu'est-ce qui a fait que vous soyez aussi solide et quels sont les projets d'ici peu. Merci.
Jamais lié des choses politiques, peut-être si l'injustice nous a poussé de faire ça. Et voilà, parce que dès le début, lorsqu'on a décidé de créer le syndicat, le parole est totalement différent au niveau de la direction de l'UGT, de déléguer ces syndicats est bien protégé, et vous pouvez militer et demander. Nous, comme direction UGT, on est toujours avec les syndicalistes, etc. On veut se tenir. En plus, parce que vraiment, on a subi beaucoup des abus. Si je dis des harcèlements sexuels, et si je dis des insultes, et les salaires trop bas, etc., on a arrivé un jour, comme 10 ouvrières, à régler tout ça, malgré tout, les conditions et tout. Les conditions de notre pays aussi, on est arrivé à régler tout ça et après on va être licencié facilement, on ne peut pas l'accepter. Peut-être c'est une chose vraiment héréditaire, j'accepte pas d'être traité comme un esclave, j'accepte pas l'injustice. Même je rappelle très bien un jour au niveau de l'inspection générale, l'inspecteur elle a dit bout et se met à crier, elle nous a dit: Sonia Imounia, dites-moi d'où vous avez eu tout ce souffle. Vraiment on était très fatigués, on est très fatigués, on veut finir ce dossier, mais c'est pas normal. On a travaillé avec 10 syndicalistes, 10 hommes, on est arrivé à régler le dossier rapidement, mais vraiment d'où vous avez ce souffle. Donc peut-être pour moi c'est une chose héréditaire. Je sais pas. Pour moi, j'ai de la chance parce que je trouvais aussi moi, elle a le même caractère. Bon, on a Rim qui a préféré de quitter la lutte parce qu'elle n'a pas accepté quand même qu'on traite mal par notre organisme et par la direction de l'UGT. Mais voilà, pour moi et Moni, on a dit voilà, aujourd'hui c'est pas la lutte que contre les sociétés multinationales, même contre la direction de l'UGT, on va pas lâcher. Donc on va terminer. C'est déjà, on a perdu notre travail, qu'est-ce qu'on va perdre de plus? Ou bien on va réussir, ou bien voilà, si on reste dans le même état, on ne va pas reculer.
Peut-être je peux ajouter une chose de le fait, parce que là, faisait la question s'il est à l'intérêt politique ou c'est l'injustice. Notre mouvement, c'était dû à l'injustice parce qu'on a senti ça. Le patron, il distribue des papiers dans lesquels il dit la production, c'est temporairement, on fera à la France, à Tarbes et à Montpellier pour qu'on puisse vous licencier comme syndicat. Ça m'a bien touchée et j'ai dit, je veux lutter jusqu'au bout avec cette société. Quelles sont les conditions? Je veux lutter, je ne veux pas arrêter. Et voilà. Mais jamais qu'il était un intérêt politique ou quelque chose.
Les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maintenues, seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. C'est une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions.
et vous retirez sur le côté gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence.
Je n'y vois aucun inconvénient, j'attends les ordres.
Quel imbécile. C'était le Régor, chaque semaine, sur l'école du Garrigue à Montpellier. Canassule à Toulouse et Radio Primitive sur Radio. Cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site OC Libertaire et sur les blogs Le Chat Noir 51 et Reims Média Info.